Bonjour et bienvenue à tous au culte de l'Église évangélique libre de Cannes. Bienvenue à tous les habitués et puis aussi à tous les autres qui nous rejoignent, il paraît, en France et ailleurs. On est content de vous ouvrir notre porte. Merci à tous de prendre ce temps pour vivre ce culte avec nous. Et j'espère qu'on pourra profiter de cette occasion ce matin pour saisir la main que Dieu nous tend. Et je vous invite à commencer en chantant avec nous. Je n'ai que toi.
Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je soutien de mon cœur, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus. Pour me saisir la main, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien, près de toi je me sens bien.
Je voudrais simplement relever cette phrase qu'on vient de chanter. Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu s'approcha pour me saisir la main. Quand les enfants étaient petits, on avait un livre à la maison qui s'appelait « Ma maman s'est perdue ». C'est l'histoire de ce petit garçon qui accompagne sa maman dans un grand magasin du style Galerie Lafayette et lui tient la main. Et ils traversent ensemble les différents étages, ils montent sur les escalators, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, tout à coup, le garçon se rend compte que ce qu'il tient la main, en fait, c'est pas la main de sa maman, mais c'est juste son gant. Et que le gant est vide. Et il se dit que sa maman s'est perdue. Évidemment, c'est pas lui qui est perdu, parce que lui, il sait très bien où il est, mais c'est sa maman qui s'est perdue. Et le livre raconte toutes ses aventures dans le magasin avant de la retrouver. Et dans ma relation avec Dieu, il y a des moments qui ressemblent un peu à ça. Parfois, je lui tiens fermement la main. Je prie, je chante, je puise ma force en lui, je suis en paix avec les autres. Et puis, il y a d'autres moments où je suis fatiguée, où tout m'irrite, où me désespère, où les doutes surviennent. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression que je ne tiens plus sa main, mais juste un gant vide. Et ça arrive souvent quand les choses habituelles qui soutiennent ma foi, le culte, les autres chrétiens, sont enlevées, comme un peu ces derniers temps parfois. Alors vous êtes peut-être dans l'un ou l'autre cas ce matin, soit vous tenez fermement la main de Dieu, ou bien vous avez l'impression de tenir un gant vide. Quoi qu'il en soit, je vous invite, je nous invite ensemble à retrouver sa main tendue vers nous et à la saisir de nouveau. Voici ce que Dieu nous dit dans Ésaïe au chapitre 41 au verset 13. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Je voudrais prier avec vous. Notre Père, nous voici devant toi avec nos irritations, nos fuites, notre foi en dents de scie, nos doutes aussi. Seigneur, viens nous saisir par la main, nous rappeler que tu es là pour nous aider, Viens renouveler notre foi alors que nous tournons nos regards vers toi. Viens aussi nous rappeler les fondements sur lesquels notre foi repose. Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est vrai, quand nous pensons à cela, nous disons comme les disciples, vers qui irions-nous d'autre? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous voulons saisir ta main tendue ce matin et écouter ce que tu as à nous dire. Oui, Seigneur, viens me saisir la main quand la mienne s'est perdue et me relever. Amen. Et je vous invite à chanter « Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut ». Il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène.
Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue.
Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien maintenant que l'on peut sortir de nos maisons. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps de Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, le corps de Christ est comparé au corps humain. En effet, Jésus-Christ est la tête de l'Église, comme le cerveau commande les divers membres et organes de notre corps. Installe-toi confortablement, debout ou assis, et je te proposerai d'observer lentement les différentes parties de ton corps. Regarde maintenant tes pieds. Ils supportent tout le poids du corps. Et ils demandent beaucoup de soins. Pour avancer, ils doivent être bien chaussés. Regarde tes jambes. Elles aussi sont utiles pour avancer, courir, se baisser, s'accroupir. Regarde maintenant ton ventre. Parfois, on n'ose pas le montrer. Pourtant, À l'intérieur, il se passe des choses importantes. Il fait même des gargouilles après un bon repas. Regarde maintenant tes bras. Ils sont parfois musclés. Ils servent à porter et collaborent avec la main pour attraper. Regarde ensuite tes mains. Il y en a des grandes ou des petites. Elles servent à dire bonjour, à caresser, parfois taper ou simplement se protéger. En ce moment, il faut surtout bien les laver. Mets-toi en pause et va chercher un miroir. Et regarde la tête et ton visage à l'intérieur du miroir. C'est l'image qui te caractérise. Ainsi, tu te reconnais, toi. Je t'invite maintenant à fermer les yeux et à écouter ta respiration. Entends ton souffle, le souffle de vie que Dieu a mis en toi. Comme dans le corps de Christ, il y a le Saint-Esprit, le souffle de vie que Dieu met en nous. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Comme dans le corps, l'Église a besoin de chacun, même aussi de toi. En effet, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il a voulu. Il n'y aurait pas de corps si il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. Ainsi en est-il aussi dans notre société, dans notre pays. Nous l'avons vu ces derniers jours. Nous avons notre président de la République qui a pris avec ses ministres des décisions pour le bien de tous, pour protéger la population. Et nous avons vu aussi le corps médical avec les médecins et les soignants, dont le rôle était de soigner les malades pendant cette épidémie. Chacun a fait sa part et nous avons eu besoin des uns des autres. Ainsi, dans notre église de Cannes, nous sommes le corps de Christ et chaque membre a son importance. Comment vis-tu ta place à l'église? Même en tant qu'enfant, tu peux apporter de la joie, un sourire autour de toi. Tu fais partie de la famille de Dieu. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Je te propose de prier et de parler à Jésus des personnes de l'église que tu connais. Imagine leur visage dans ta tête. Nous allons prier pour eux. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre toutes les parties de ce corps, celles qui souffrent, celles qui sont fatiguées de leur activité, celles qui espèrent et celles qui désespèrent, les oubliées, celles que nous ne voyons plus. Seigneur, apprends-nous à prendre soin les uns des autres. Amen. Peut-être penses-tu être trop petit ou que tu ne sais rien faire. Il y a une place pour chacun dans l'Église et c'est Dieu qui nous fait une place. Cette place, tu la trouveras en faisant confiance à Jésus. Voici notre place dans le corps du Christ.
Je vous propose de lire ce matin dans le livre de Daniel, au chapitre numéro 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de ses dieux, et il mit les objets dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses hauts fonctionnaires, d'amener quelques Israélites de la dépendance royale ou de famille de dignitaires. Les garçons sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi, à qui on apprendrait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des hauts fonctionnaires leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abel-Nego. Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait, et il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion du chef des hauts fonctionnaires. Le chef des hauts fonctionnaires dit à Daniel, « Je crains mon maître le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi trouverait-il moins bonne mine qu'aux autres garçons de votre âge? Vous me feriez risquer ma tête devant le roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des hauts fonctionnaires avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Nous sommes tes serviteurs. Mets-nous, je t'en prie, à l'épreuve pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des garçons qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec nous d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les garçons qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant enlevait les mets et le vin de leur repas, et il leur donnait des légumes. Dieu donna à ces 4 garçons de la connaissance, du discernement dans tout ce qui concernait les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Je vous propose, en cet été qui s'annonce, une série de 3 études sur la sainteté, une pour chaque mois, juin, juillet et août, dont le fil rouge va être ce premier chapitre de Daniel et plus particulièrement ce passage que nous venons de lire. Et je vous propose notre première méditation ce matin. Mais d'abord, je vous propose de replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes en l'an 605 avant Jésus-Christ, au moment de notre récit. Nous sommes arrivés au bout d'un long processus au cours duquel, pendant des centaines d'années précédentes, le peuple d'Israël a connu une lente décadence. Arraché de l'Égypte par la grâce de Dieu et par la main de Moïse, puis conquérant la terre promise, le peuple d'Israël n'avait alors comme seul roi que Dieu lui-même. Mais dès son installation dans le pays promis, Israël fut attiré par les peuples environnants, cherchant de plus en plus à leur ressembler, au point de demander à Samuel un roi pour être comme les autres nations. Être comme les autres. Voilà la racine de tous les maux. Déjà, Adam et Ève avaient voulu être comme Dieu dans le jardin d'Éden, avec les conséquences que nous connaissons. Et ce choix de vouloir être comme les autres nations va constituer un tournant pour Israël dans son histoire. Malgré des rois plus ou moins fidèles à Dieu, le peuple ne cessera jamais de copier les peuples alentours, notamment en matière d'idolâtrie et de pratiques sociales ravageuses sur le plan humain. Après avoir averti son peuple par de nombreux prophètes et l'engager à revenir à lui sans grand succès, Dieu va finir par laisser Israël livré à lui-même, ce qui va aboutir à l'envahissement d'Israël par les nations environnantes et la déportation du peuple dans différents pays. Au moment de notre récit, Juda, la dernière province d'Israël à avoir résisté, vient d'être envahie par les Babyloniens et une première déportation a lieu, dont font partie Daniel et ses amis. Le récit nous le suggère facilement, Nabuchodonosor, comme c'est la tradition à cette époque, veut prendre la crème de la société de Juda et l'assimiler sur le plan culturel, social, économique et religieux pour en faire une sorte d'élite qui gouvernera dans les hautes sphères de l'État. Ainsi, il contrôlera mieux ses sujets de nations étrangères et en même temps, il profitera de leur intelligence et de leurs capacités. C'est en étant l'objet d'un tel plan que Daniel arrive dans la porte des dieux. la plus célèbre des cités de l'Antiquité. En arrivant dans cette métropole immense, représentant un empire puissant, les jeunes Israélites ont pu et dû remarquer la splendeur de cette ville ivre de fierté, dénotant un orgueil royal incommensurable. Rien et rien que moi, dira Isaïe, en parlant de cette ville dont le nom rappelle celui de Babel. Cette cité se veut le symbole même du culte et de la gloire de l'homme quasiment divinisé et défiant Dieu. Les mages et les astrologues conseillaient un roi qui se prenait lui-même pour un dieu. Pour des adolescents bien fragiles encore, loin de chez eux, de leurs repères et de tout ce qu'ils aimaient, se retrouver dans cette ville tout en étant objet d'un enjeu politique devait être très impressionnant. Que va-t-il leur arriver? Le roi de Babylone arrivera-t-il à les séduire et à les transformer en élite politique et technocratique? Comment pourrait-il en être autrement? Les défis qui attendent Daniel et ses amis ne sont pas si éloignés de nous. Comme eux, nous sommes de race royale, des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes exilés, déracinés, loin de notre patrie céleste. Comme Daniel, le système de pensée de notre monde cherche à nous assimiler, à nous naturaliser. Ce monde n'a rien en effet à envier à la Babylone où se trouve Daniel. Pour ne citer que quelques caractéristiques semblables, nous noterons immoralité et corruption, violence cruelle et persécution, athéisme et laïcité, matérialisme impudent et orgueilleux, trafic de toutes sortes et éthique tordue. Pour Daniel, très rapidement allait se poser ce choix, rester soi-même, fidèle à sa culture et surtout à sa foi, ou bien se laisser séduire et devenir un Babylonien d'adoption. Dans cette introduction au livre de Daniel, c'est comme si un décor était planté pour valoriser le scénario suivant, être ou ne pas être comme les Babyloniens. Être ou ne pas être comme les autres fait aussi partie des fils conducteurs principaux du scénario de notre vie terrestre. Mais nos choix sont souvent plus nuancés et nos décisions bien plus subtiles à prendre dans nos pays occidentaux qui ne sont pas totalitaires à l'image de Babylone et qui prônent plutôt la démocratie et la tolérance. Dans notre monde occidental, le système de pensée du monde est aussi à l'œuvre, mais de façon plus complexe, plus cachée, plus sournoise, et il nous faut y être prudents comme des serpents, ainsi que nous y invite Jésus. Autrement, nous pourrions bien finir par nous y perdre et y perdre notre foi. Les choix de Daniel et de ses amis nous interpellent profondément. Ils nous renvoient à notre identité et à notre façon de vivre cette identité. Ils nous invitent à nous demander quelle est notre position dans ce monde. Ils mettent le doigt sur notre sainteté. Lorsque nous accueillons le Christ dans notre vie par la foi, en comprenant son œuvre de pardon, de réconciliation et de vie, nous devenons saints, car saint signifie être mis à part pour Dieu. En conséquence, nous ne faisons plus partie de ce monde, même si nous y demeurons encore pour quelque temps. Et dans sa première lettre, aux chrétiens dispersés sans patrie, Pierre leur adressera en 1 Pierre 1 cette exhortation reprise du Lévitique « Soyez saints, car je suis saint ». Et là, c'est Dieu qui parle. Dans nos pays occidentaux, où la pluralité et la mixité s'entremêlent pour former un tissu social et spirituel entre gris clair et gris foncé, nos contemporains ont besoin de voir de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. L'Église dont nous sommes chacun membre est un sanctuaire que Dieu foule. Elle doit être sainte et marcher avec son Dieu. L'amour pour Dieu et l'obéissance à sa parole rendent nécessaire une certaine séparation avec le monde environnant, pour les chrétiens que nous nous revendiquons d'être. Laissons-nous donc enseigner par l'attitude, les choix, les décisions de Daniel et ses amis pour mieux comprendre comment répondre à la vocation de sainteté que le Dieu saint nous lance. Daniel résolut de ne pas se souiller. Le verbe « se souiller » revient deux fois dans ce verset. Daniel avait le souci de plaire à Dieu, dans la pureté, séparé de toute souillure, de tout péché. Être saint, c'est l'opposé d'être souillé. La sainteté, c'est la séparation de tout ce qui est impur aux yeux de Dieu. La pureté est un des apparats de Dieu. Dans les visions que Daniel aura, ou bien dans celles de l'évangéliste Jean dans l'Apocalypse, les mots utilisés pour décrire la représentation divine semblent bien fades pour évoquer la magnificence ou bien l'éclat de la beauté divine. La blancheur est le qualificatif qui revient le plus souvent dans ces descriptions. Et justement, c'est de robes blanches que sont invités à se parer les croyants dans les divers récits et dans les diverses visions que nous trouvons dans la Bible. Avec le sacrifice de Christ, ceux qui étaient souillés par le péché et qui avaient une robe noire ont été blanchis par le sang de l'agneau. Désormais, Ils sont purs comme le Seigneur est pur lui-même. La purification initiale de notre âme souillée par le sang du Christ nous fait entrer dans la famille des saints en Jésus-Christ. C'est l'acte fondateur qui va pousser l'enfant de Dieu à se séparer des souillures du monde dans lequel il vit. Désormais, après être né spirituellement, il va grandir dans la foi et il va vivre un processus de sanctification pour le reste de sa vie. La sanctification est notamment ainsi un processus qui est fait de séparation du mal et des souillures du monde, de repentance et de purification renouvelée de façon continuelle dans le pardon et dans la grâce de Dieu. Dieu veut notre sanctification, dira Paul en 1 Thessaloniciens 4. C'est une des rares choses pour lesquelles la Bible nous donne une indication claire de la volonté de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut pour moi, c'est la question que Daniel a dû se poser quand on lui a annoncé qu'il allait être nourri par les mets du roi. Daniel était suffisamment intelligent pour comprendre que manger des plats de la cour royale n'était pas juste un acte alimentaire. Accepter d'en manger allait avoir des conséquences dans sa vie personnelle et dans sa relation avec Dieu. Accepter d'en manger revenait à transgresser la loi qui interdisait de manger des viandes impures comme on en trouvait à Babylone. Cette nourriture et le vin avaient pu être consacrés aussi aux idoles auparavant, comme c'était la coutume. Les partager avec les Babyloniens aurait été symbole, comme c'était le cas à cette époque-ci, de s'engager en amitié et de montrer son désir d'être loyal au roi également. Les partager lors des repas du roi revenait à le faire dans une ambiance corrompue, où les mœurs les plus sordides étaient étalées. La conscience de Daniel était éveillée. Il voulait être le reflet de la beauté, de la pureté de l'Éternel dans une cité corrompue, comme un lys poussant dans un tas de fumier. Il désirait vivre dans la limpidité, la transparence, la lumière de la sainteté comme Dieu. Dans un village, une petite paysanne fut interrogée au cours du catéchisme par son curé. « Dis-moi ce qu'est un saint. » « Un saint? Eh bien c'est un homme qui est traversé par la lumière, lui répondit-elle, en regardant l'image des hommes de Dieu sur les vitraux de l'église. » Plusieurs reprises, dans ses épîtres, Paul exhorte ses lecteurs à avoir comme lui une conduite pure ou sincère. Le mot grec, qui évoque le mot « sincère », peut être traduit par « éprouvé par le soleil ». À l'époque, les artisans faisaient des porcelaines très fines et très recherchées. Parfois, des micro-fissures apparaissaient à la cuisson, et pour les dissimuler, les marchands malhonnêtes les recouvraient d'une craie d'une blancheur éclatante. Ainsi, ces porcelaines paraissaient véritables, sauf quand on les regardait par transparence à la lumière du soleil. Ainsi, la première leçon que nous donne Daniel, c'est de chercher à être des hommes et des femmes transparents, limpides, sincères. La sainteté de Daniel, cette manière d'être différent en refusant de toucher à ce qui est impur aux yeux de Dieu, jette un pavé dans l'eau saumâtre de nos compromis. Il nous faut préciser ce que nous entendons par compromis. Il ne s'agit pas de la tolérance dont nous pouvons user au nom de l'amour, ou de ces petites concessions qui permettent, grâce à un bon sens sanctifié, de préserver une harmonie dans les relations humaines que nous vivons. Il s'agit de tout ce qui peut aboutir à l'abandon partiel de la vérité divine au nom de l'opportunisme, du pragmatisme, du relativisme et de tous ces autres ismes destructeurs. Sous prétexte de se faire tout à tous pour en sauver de toute manière quelques-uns, nous finissons par faire preuve d'une incroyable élasticité théologique et morale. Par peur du rejet, de finir isolés, moqués, nous pouvons finir par chercher à ressembler de plus en plus et même trop à ceux qui nous entourent et qui ne sont pas croyants. Nous finissons par y perdre notre identité. Un chasseur avait un gros ours au bout de son fusil. Il s'apprêtait à tirer quand l'ours lui dit « Nous pourrions peut-être discuter avant de tirer. Dites-moi, que voulez-vous » Le chasseur baissa son fusil et lui dit « J'aimerais un bon manteau de fourrure pour ne plus avoir froid, l'hiver. » Et l'ours lui répondit « Quant à moi, j'aimerais avoir un estomac bien rempli, mais nous pourrions nous asseoir et en parler. » Ils s'assirent et négocièrent. Un peu plus tard, l'ours repartit, seul. Les négociations avaient abouti, et on ne voyait plus la différence. Il avait englouti l'homme, qui avait un manteau de fourrure maintenant, et l'ours, un estomac bien rempli. Notre opportunisme, notre relativisme, notre pragmatisme coupable nous assimilent de plus en plus au monde, de telle sorte que nous finissons par ressembler étrangement à la société profane qui nous entoure, avec un brin de christianisme en plus. Mais repérer les ours de nos vies, et couper court à toute négociation avant qu'ils ne nous engloutissent, nous arrive quand même souvent. Mais il y a aussi des compromis qui sont encore plus subtils à débusquer, car ceux-ci n'émanent pas de la société environnante, mais elles émanent de notre fort intérieur. Un séquoia particulier, estimé à de plus de 400 ans, se trouvait dans une forêt. Il avait survécu à des tempêtes, à des éclairs, à des tremblements de terre, à des incendies de forêt. Mais soudainement, ce grand arbre, ce séquoia énorme, est venu s'écraser sur le sol de la forêt. On s'est demandé ce qui s'est passé. On a coupé ce séquoia et on a trouvé que ce n'étaient pas les tremblements de terre ou les tempêtes qui l'avaient abattu, mais de petits coléoptères minuscules qui étaient arrivés au cœur de ce grand arbre et étaient allés le manger. Ces coléoptères, ce sont toutes ces petites choses comme ces petits mensonges ou ces petites convoitises qui nous tentent. On se dit sur le moment que ce n'est pas bien grave si on leur consent, mais ils sont autant de petits coléoptères qui finissent à la fin par abattre notre foi et défigurer notre identité d'enfant de Dieu. En prenant la décision de ne pas se souiller avec les mets du roi, Daniel et ses amis nous montrent qu'ils ne veulent pas laisser l'esprit babylonien s'introduire en eux. Comme eux, nous pouvons et nous devons empêcher le système de pensée de ce monde et le péché venir se nicher en nous. Certes, notre place n'est pas ailleurs que dans ce monde, mais il nous faut nous rappeler que nous ne lui appartenons pas. Puisse Dieu nous rendre fermes dans notre foi, notre identité et notre intégrité pour Dieu. Et je vous propose de chanter maintenant « En toi, je sais qui je suis ».
Nous aurons maintenant notre temps d'offrande. Et comme d'habitude, vous avez l'adresse de la trésorière Jane Foster qui s'affiche sur l'écran, et puis aussi le numéro de compte pour des ordres, des virements permanents. Plusieurs se sont ajoutés d'ailleurs pour émettre des virements permanents, ce qui est très intéressant pour les comptes de l'Église. Merci en tout cas à chacun pour sa solidarité, pour la générosité, pour la fidélité qui nous aide à passer ce cap difficile pour tout le monde. Quelques annonces maintenant. Aujourd'hui, dimanche 7 juin, c'est la parution du magazine Le Rio qui sera disponible à la sortie du culte, c'est-à-dire vers midi, dans vos boîtes mail, évidemment. Vous allez le recevoir numériquement. Merci à toute l'équipe de rédaction, à Diego pour la mise en page, pour ce beau numéro du Rio, ils le sont tous, sur la liberté. Bonne lecture. Et puis dimanche 14 juin, c'est dimanche prochain, nous reprenons les cultes publics après réflexion et en suivant les recommandations et les consignes qui nous sont données par le gouvernement, mais aussi par la Fédération protestante de France ou le Conseil national des évangéliques de France, et en concertation aussi avec les autres églises de la région PACA, des églises libres de la région PACA, on s'est dit qu'on pouvait se lancer, mais comme il y a des restrictions et des consignes, le nombre de participants à ce culte sera limité. Donc ce culte se fera sur inscription. Il faut vous inscrire. Et pour cela, il vous faut téléphoner à Sylvie Kibler, la présidente du conseil, au numéro qui s'affiche, le 06 14 62 35 40. Et Sylvie demande que ça puisse être fait par texto de préférence. Alors c'est une mise en route, on verra comment ça va. Il y aura certainement des changements à faire pour les prochains cultes du 21 et du 28 juin. Mais le 19, du 19 au 22 juin, du vendredi 19 au lundi 22 juin, il y a l'association Les Enfants à la Montagne qui organise une sorte de camp de travail pour remettre en route le centre qui nous est cher, donc à Saint-Martin-Vésubie. On peut venir un jour, ou deux, ou trois, ou quatre, mais que chacun puisse se sentir appelé ou motivé pour aller donner un coup de main et puis montrer aussi sa solidarité pour cette association qui, comme toutes les associations et les centres de vacances, vit des moments un peu particuliers, donc qui ont besoin de notre soutien aussi. Et puis dimanche 28, nous aurons enfin nos assemblées générales, de l'église, donc de l'association cultuelle, mais aussi des amis de l'église, de l'association culturelle. Elles auront lieu à 14h30. Elles devaient avoir lieu le 15 mars. Elles auront lieu donc le 28 juin pour, en raison de ce que vous savez. Et puis, alors, loin d'être juste une réunion administrative, c'est aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux membres, il y en a deux, de voter les nouveaux membres du conseil, et puis de voir ensemble les perspectives pour la rentrée. C'est aussi une belle rencontre d'église, pour parler de l'église, et pour s'encourager les uns les autres. Et puis, un peu plus loin, on l'annonce depuis un certain temps déjà, le week-end d'église aura lieu du 10 et 11 octobre au centre La Pastorale. C'est l'association Matania qui nous recevra. C'est dans le Var, dans le beau massif de la Sainte-Baume, je crois. Et puis, oui, c'est le pasteur Yves Pisan que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, et qui sera notre orateur. Il viendra avec son épouse Marilène. Donc, ce sont de bons moments en perspective autour de la parole, mais aussi dans la communion les uns avec les autres et dans la nature que nous passerons tous ensemble. Alors, on vous invite vraiment à réserver déjà ces dates. Et puis, je vous invite à visiter notre site ou le site de l'Union. Il y a des choses très intéressantes. Et puis maintenant, c'est Georgette et Michel qui vont nous conduire dans la prière d'intercession.
Inclinons-nous dans la prière en unité de cœur et d'esprit. Nous nous adressons à toi, notre bon Père céleste, toi qui écoutes notre intercession. Réunis devant toi, nous te portons la vie de notre Église. Éric et Yvonne pour leur ministère parmi nous, afin que tu renouvelles leur force pendant la marche. Inspire et conduis chaque membre du conseil. Nous te prions pour nos frères et sœurs de l'Église, afin que chacun reste attaché à toi, Jésus, comme le serment au cep. Nous te prions pour un souffle renouvelé de ton esprit sur chacun de nous, en ces temps si particuliers. Que ta présence soit agissante lorsque la crainte, la peur ou l'angoisse nous étreint. Nous intercédons avec persévérance pour la santé de Carole. Tu soutiens Pierre et les enfants, ainsi que leur famille, Simone, Alain, Arnaud et Sophie. Nous te présentons également Junie, afin que tu la relèves dans sa santé. Nous te portons Pierre et Angèle, afin que tu les accompagnes et sois leur soutien journalier. Nous voulons te prier pour les enfants et les jeunes qui ont vécu ce confinement. Rassure-les de ta présence et de ta paix. Seigneur, nous t'en prions, toi qui nous promets dans ta parole un avenir et de l'espérance.
Dans ta parole également, Seigneur, tu nous invites à être des intercesseurs auprès du Père. Nos prières sont nombreuses et parfois répétitives, mais tu attends que tes enfants s'adressent à toi et te disent ce qu'ils ont sur leur cœur. Écoute donc nos supplications pour ce monde en flammes. Nous te supplions de venir en aide à tous ces laissés pour compte, à tous ces démunis, ces frères en la foi qui souffrent de persécutions, de malnutrition et ceux dans l'indifférence générale. Mais pas pour toi, notre Dieu qui voit de ton trône monter toutes ces supplications, toutes ces prières, afin que tu te lèves et viennes secourir ces petits, ces affamés de justice, ces orphelins et veuves qui ont perdu un papa et un époux. Mets sur leur route des hommes et des femmes remplis de ton esprit, afin qu'ils viennent leur témoigner de ta grâce et de ta bonté, et leur apporter un peu de pain et de chaleur humaine. Tu es un Dieu juste et qui rémunérera chacun selon ses œuvres. Merci donc d'étendre ta bénédiction sur notre pays, d'aider nos dirigeants à prendre de bonnes décisions, de venir en aide à ceux que tu as placés aux plus hautes fonctions et de leur donner ta sagesse et ton discernement. Nous voulons croire en ta toute-puissance afin de donner à nos frères en captivité, en prison, une lueur d'espoir dans ces moments sombres et d'isolement. Nous te prions en particulier pour nos frères d'Inde qui souffrent de ne pas pouvoir donner à manger à leurs enfants, qui se retrouvent sans travail et sans aucune aide du gouvernement. Mais merci Seigneur de ce que des associations humanitaires telles que Portes Ouvertes œuvrent auprès de ces plus défavorisés et leur donnent un peu d'espoir et de dignité. Donne-nous de ne pas nous décourager devant la grandeur de la tâche, mais au contraire, de voir que tu nous appelles à entrer dans ta moisson. Tu es Dieu et ton Fils Jésus est venu nous apporter la consolation, nous montrer la voie à suivre, que nous puissions être ses disciples à qui tu dis « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. »
Pour la bénédiction et l'envoi, je relis ce passage du prophète Ésaïe qui, après avoir parlé de temps difficiles pour le peuple d'Israël, où il se lamente, il leur dit au verset 15 du chapitre 32 « Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé sur nous d'en haut et que le désert se change en verger. Alors l'équité demeurera dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et l'ouvrage de la justice la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un domaine de paix, dans des demeures de confiance, dans des lieux de repos tranquille. Voilà une belle promesse, la promesse d'un esprit nouveau qui traverse les vies et qui les transforme. Que chacun de nous puisse se saisir de cette promesse par la foi, pour vivre cette semaine dans la paix, la tranquillité et la confiance. Oui, chers amis, que la joie et la paix de Dieu vous accompagne. Bon dimanche et bonne semaine.